Découverte, découverte. Aviva Belef en votre compagnie, avec rien que de bonnes nouvelles en provenant d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités. Et c'est tout de suite. Bonjour et shalom à tous, et bien sûr ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Découverte. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, nous irons en Italie. En effet, les médecins d'un hôpital de Turin ont annoncé que le petit garçon israélien de 5 ans dans le coma, Ethan Biran, grièvement blessé dans un accident de téléphérique dans le nord de l'Italie, s'est enfin réveillé. Alors, question sans témoin, comment transmettrons-nous la mémoire de la déportation? Les cérémonies commémoratives doivent évoluer et s'adapter à des publics nouveaux pour emporter leur adhésion. Ça s'était passé le 25 mai 1991. Souvenez-vous, l'opération Salomon, la seconde alia des Juifs d'Éthiopie, appelée les Falachas ou encore Beta Israël. Alors, désolé, chers auditeurs, si vous pensiez occuper ce poste, eh bien la place est prise. En effet, le prochain directeur du Mossad, David Barnea, remplacera Yossi Cohen qui prendra sa retraite la semaine prochaine. Je vous amènerai en promenade 48 heures à Tel Aviv, la ville blanche qui ne dort jamais, de la rue Chaïnkin au vieux Yafo, en passant par Neve Tzedek, plongée dans une ville joyeuse et bouillonnante qui regorge de bonnes tables, de cafés bohèmes et de boutiques branchées. Bienvenue à Tel Aviv, la ville la plus hédoniste d'Israël. L'info qu'il ne faut surtout pas manquer, la journée mondiale du houmous, et celle-ci est probablement la plus importante, vous ne le savez pas? Le 13 mai, c'est en effet la journée mondiale du houmous. On en profite pour vous donner quelques infos intéressantes à ce sujet. Alors, moins drôle, le ministre pakistanais des Affaires étrangères a tenu des propos antisémites lors d'une émission sur CNN consacrée à la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Je vous expliquerai pourquoi Christian Estrosi, le maire de Nice, a fait hisser le drapeau israélien sur sa mairie. Je vous parlerai également de cette chanson plaidoyer pour ma terre et plus spécialement de son auteur Herbert Pagani. Il est vilaine, en France, une journaliste sur les traces d'un juif déporté en 1943 depuis Bain de Bretagne. La journaliste s'appelle Stéphanie Trouillard. En Allemagne, la communauté juive est sous tension avec la recrudescence du conflit israélo-palestinien. Les 100 000 juifs allemands craignent que les actes antisémites se multiplient. Il y aurait moins d'accidents de la route à New York grâce à une start-up israélienne. C'est en tout cas le pari de Nexar. Je vous expliquerai cela tout à l'heure après cette chanson qui nous remontera le moral si jamais il était en berne.
זיו השדה שאספנו אז אור הארץ נושאת יבולה ואור יפים הם מלילות בכנען תרם השמש עולה עוד רכבת חוצה שם פרדס ירוק חסידה עוד רוגעת מעל ועוד נוסע הערפל בעמק בין הזריחה ועוד נשמע אין מלבבות כואב לו סמר ישן ומחור וגם אחורה ההיא תימהה תולה עולה תולה לרדה וגם אחורה ההיא תימהה שירה ומלא ליבי
Lie, 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 lie חש חדה שעזבנו אז אור הארץ נושאת יקולה ואור יפים הם מלילות בדנן דרם השמש עבר
C'était bien sûr Avit Toledano, Grand Prix de l'Eurovision en 1942. Alors sachez que les médecins d'un hôpital de Turin ont annoncé que le petit garçon israélien âgé de 5 ans dans le coma Ethan Biran, grièvement blessé dans un accident de téléphérique dans le nord d'Italie, s'est réveillé. L'enfant s'est soudainement retrouvé sans famille. Sa mère, son père, son jeune frère et ses grands-parents sont morts dans la cabine après que le câble s'est cassé. Les médecins italiens pensent qu'Ethan a été sauvé par son père qui a pris son fils dans une forte étreinte au moment de la catastrophe. Les médecins de la clinique de Turin rapportent également que le garçon a montré les premiers signes de sortie du coma et que ses réactions sont positives. Le garçon a passé une nuit tranquille, son état est stable. Nous avons donc commencé la procédure pour le sortir du coma. Nous réduisons la quantité de médicaments qui le maintient dans un coma artificiel. C'est ce qu'a déclaré le directeur de l'hôpital, Giovanni Levalle. Maintenant, nous sommes plus optimistes car la nuit précédente était très critique. Il avait précédemment déclaré aux journalistes que le cerveau du petit garçon n'avait pas été endommagé et qu'il n'y avait pas eu de blessure grave au corps à part quelques fractures osseuses. La condition d'Ethan suscite un vif intérêt et une sympathie dans toute l'Italie. Même le pape François a appelé les gens à prier pour son rétablissement. L'enquête sur la catastrophe est en cours. Il est rapporté qu'après la rupture du câble, le téléphérique s'est abattu à une vitesse de 100 km à l'heure. Lorsqu'il est tombé du câble, il a été catapulté à 54 mètres sur une pente de montagne abrupte envahie par la forêt. Une fois le câble rompu, le frein automatique aurait dû fonctionner, mais cela ne s'est pas produit. Les experts sont arrivés à la conclusion que la raison en était la présence d'une fourche sur l'un des mécanismes de frein. Cette fourche est placée pour désactiver temporairement le frein si nécessaire. Lorsqu'il y a des personnes à bord, ce support doit être retiré pour que le frein puisse être appliqué en cas d'urgence et que la cabine reste attachée au câble. Mais dans ce cas, la fameuse fourchette est restée. Apparemment, il a été oublié d'être retiré après un contrôle technique effectué avant le récent lancement du téléphérique. On pense que le deuxième frein sur lequel il n'y avait pas de fourche a simplement été arraché par une force gigantesque de la cabine volant vers le bas. Les journaux italiens parlent d'ailleurs d'une possible erreur humaine. Les dépouilles donc des parents, du frère et des grands-parents ont été rapatriées en Israël et sont donc déjà enterrées. Le 11 novembre 1975, l'artiste franco-italien Herbert Pagani écrit le fameux « Plaidoyer pour ma terre ». 46 ans après, ce texte rédigé au nom d'un peuple, de son histoire et de sa terre, s'inscrit pleinement dans la temporalité d'aujourd'hui. Visionnaire, il évoquait déjà à l'époque les thèmes et les mots auxquels la communauté juive est encore confrontée de nos jours. À l'heure où l'antisémitisme connaît un regain dans nos sociétés, l'antisémitisme renaît de ses cendres, de nos cendres, et s'appelle « antisionisme », écrivait-il. Abordant plusieurs thématiques de l'exil des Juifs jusqu'à leur arrivée en Terre Sainte, l'authenticité de ce texte a été conservée au fil du temps. L'Alia, le conflit israélo-palestinien ou encore le racisme et le sionisme évoqués perdurent. Qu'est-ce que le sionisme ? L'an prochain, Jérusalem, c'est écrit dans la Bible, le livre le plus vendu et le plus mal lu du monde. Le sionisme, c'est un nom de combat de libération, peut-on y lire ? Nous sommes les Juifs de tous et quand on me demande « et les Palestiniens ?», je réponds que je suis un Palestinien d'il y a 2000 ans, je suis l'opprimé le plus vieux du monde, je discuterai avec eux, mais je ne leur céderai pas ma place, écrivait donc Herbert Pagani. Il y a de la place pour deux peuples et deux nations. Les frontières sont à déterminer ensemble, mais l'existence d'un pays ne peut exclure l'existence de l'autre. Et cela donne cela.
11 novembre 1975. Hier, j'étais dans le métro et j'entends deux dames dire « T'as vu encore ces juifs avec leurs histoires à l'ONU ?» Quels emmerdeurs. C'est vrai, nous sommes des emmerdeurs. Ça fait des siècles qu'on emmerde le monde. C'est dans notre nature, que voulez-vous ? Abraham, avec son Dieu unique, Moïse avec ses tables de la loi, Jésus avec son autre joue toujours prête à la deuxième baffe, puis Freud, Marx, Einstein, tous ont été des gêneurs, des révolutionnaires, des ennemis de l'ordre. Pourquoi ? Parce qu'aucun ordre, quel que fût le siècle, ne pouvait les satisfaire, puisqu'ils en étaient toujours exclus. Remettre en question, voir plus loin, changer le monde pour changer de destin, tel fut le destin de mes ancêtres. C'est pourquoi ils sont haïs par les défenseurs de tous les ordres établis. L'antisémite de droite reproche aux juifs d'avoir fait la révolution bolchévique. C'est vrai, il y en avait beaucoup, en 1917. L'antisémite de gauche reproche aux juifs d'être les propriétaires de Manhattan. C'est vrai, il y a beaucoup de capitalistes juifs. La raison est simple. La religion, la culture, l'idéal révolutionnaire d'un côté, les portefeuilles et les banques de l'autre sont les seules valeurs transportables, les seules patries possibles pour ceux qui n'ont pas de patrie. Et maintenant qu'il en existe une, l'antisémitisme renaît de ses cendres, pardon, de nos cendres, et s'appelle antisionisme. Il s'appliquait aux individus, il s'applique à une nation. Israël est un ghetto, Jérusalem c'est Varsovie. Les nazis qui nous assiègent parlent arabe, et si leur croissant se déguise parfois en faucille, c'est pour mieux piéger les gauches du monde entier. Moi qui suis un juif de gauche, je n'en ai rien à faire d'une certaine gauche qui veut libérer tous les hommes du monde aux dépens de certains d'entre eux, car je suis précisément de ceux-là. D'accord pour la lutte des classes, mais aussi pour le droit à la différence. Si la gauche veut me compter parmi les siens, elle ne peut pas faire l'économie de mon problème. Et mon problème est que depuis les déportations romaines du 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons été partout honnis, bannis, traqués, dénoncés, écrasés, spoliés, brûlés et convertis de force. Pourquoi ? Parce que notre religion, c'est-à-dire notre culture, était dangereuse. Eh oui. Quelques exemples ? Le judaïsme a été le premier à créer le Shabbat, jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour de repos hebdomadaire obligatoire. Vous imaginez la joie des pharaons, toujours en retard d'une pyramide. Le judaïsme interdit l'esclavage. Vous imaginez la sympathie des Romains, les plus importants grossistes de main-d'œuvre gratuite de l'Antiquité. Il est dit dans la Bible, « La terre n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu ». De cette phrase découle une loi, celle de la remise en question automatique de la propriété foncière tous les 49 ans. Vous voyez l'effet d'une loi pareille sur les papes du Moyen-Âge et les bâtisseurs d'empire de la Renaissance. Il ne fallait pas que les peuples sachent. On commença par interdire la Bible. Puis ce furent les médisances. Des murs de calomnie qui devinrent murs de pierre et qu'on appela ghetto. Ensuite, ce fut l'Inquisition, les bûchers et plus tard les étoiles jaunes. Auschwitz n'est qu'un exemple industriel de génocide, mais il y a eu des génocides artisanaux par milliers. J'en aurai pour 3 jours, rien qu'à nommer tous les pogroms d'Espagne, de Russie, de Pologne et d'Afrique du Nord. À force de fuir, de bouger, le juif est allé partout. On extrapole et voilà, il n'est de nulle part. Nous sommes parmi les peuples comme l'enfant à l'assistance publique. Je ne veux plus être adopté. Je ne veux plus que ma vie dépende de l'humeur de mes propriétaires. Je ne veux plus être un citoyen locataire. J'en ai assez de frapper aux portes de l'histoire et d'attendre qu'on me dise « entrez ». Je rentre et je gueule. Je suis chez moi sur terre. Et sur terre, j'ai ma terre. Elle m'a été promise, elle sera maintenue. Qu'est-ce que le sionisme ? Ça se réduit à une simple phrase. L'an prochain à Jérusalem. Non, ça n'est pas un slogan du club méditerranéen. C'est écrit dans la Bible, le livre le plus vendu et le plus mal lu du monde. Et cette prière est devenue un cri qui a plus de 2000 ans. Et le père de Christophe Colomb, de Kafka, de Proust, de Chagall, de Marx, d'Einstein et même de Monsieur Kissinger l'ont répété, cette phrase, ce cri, au moins une fois par an, le jour de Pâques. Alors, le sionisme c'est du racisme ? Faites-moi rire. Est-ce que douce France, cher pays de mon enfance, est un hymne raciste ? Le sionisme, c'est le nom d'un combat de libération. Dans le monde, chacun a ses juifs. Les Français ont les leurs. Ce sont les Bretons, les Occitans, les Corses, les travailleurs immigrés. Les Italiens ont les Siciliens, les Yankees ont leurs Noirs, les Espagnols leurs Basques. Nous, nous sommes les Juifs de tous. À ceux qui me disent « Et les Palestiniens ?» Je réponds « Je suis un Palestinien d'il y a 2000 ans. Je suis l'opprimé le plus vieux du monde. Je discuterai avec eux, mais je ne leur céderai pas ma place. Il y a là-bas de la place pour 2 peuples et 2 nations. Les frontières sont à déterminer ensemble. Mais l'existence d'un pays ne peut en aucun cas exclure l'existence de l'autre. Et les options politiques d'un gouvernement n'ont jamais remis en cause l'existence d'une nation, quelle qu'elle soit. Alors pourquoi Israël ? » Quand Israël sera hors de danger, je choisirai parmi les Juifs et mes voisins arabes ceux qui me sont frères par les idées. Aujourd'hui, je me dois d'être solidaire avec tous les miens, même ceux que je déteste, au nom de cet ennemi insurmontable, le racisme. Descartes avait tort. Je pense donc je suis, ça ne veut rien dire. Nous, ça fait 5000 ans qu'on pense, et nous n'existons toujours pas. Je me défends, donc je suis.
Direction Israël, à présent, Benjamin Netanyahou a annoncé la nomination du chef adjoint du Mossad David Barnea, dit Didi, à la tête de l'organisation après avoir reçu le feu vert du chef de l'organisation. Barnea, un ancien chef d'état-major, s'est enrôlé dans l'établissement en 1996 et a commandé durant 6 ans dans la section de coordination. La division a reçu 4 prix de sécurité israélienne au cours de cette période et l'an dernier, l'ombudsman a bloqué la nomination en raison de la période électorale. Chef adjoint du Mossad, David Barnea, sera donc le prochain chef du Mossad. Cela a été annoncé lundi soir par le Premier ministre Netanyahou, qui a reçu le feu vert du procureur général Avishai Mandelblit pour le nommer à la tête du Mossad. Barnea remplacera donc Yossi Cohen, qui mettra fin à ses fonctions le 1er juin. Selon la déclaration de Mandelblit, il n'y a plus d'obstacle juridique à la nomination régulière de Barnea au poste de chef de l'Institut du renseignement et à des postes spéciaux. Fin de citation. Barnea est âgé de 56 ans, il est marié, il est père de 4 enfants et a servi dans l'armée israélienne en tant que combattant dans le régiment de reconnaissance de l'état-major général. Barnea est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de New York et a été chef d'entreprise senior dans une banque d'investissement en Israël. Il s'est enrôlé dans l'établissement en 1996 pour suivre un cours d'agent de renseignement et a été affecté à une division opérationnelle. Après cela, il a été le commandant des unités opérationnelles en Israël et à l'étranger. Et entre les années 2019 et 2013 et 2019, il a commandé la division de coordination du Mossad, où 4 prix des forces de défense israéliennes ont été remis à la division qu'il dirigeait. Oser gagner, a déclaré Netanyahou lors de la cérémonie de remise des prix du Premier ministre pour les opérations du Mossad, au cours de laquelle il a annoncé donc sa nomination. Quelqu'un doit oser confirmer les choses que l'audace lui apporte, et cela devient de plus en plus difficile. Chaque opération est plus audacieuse, plus imaginative et folle que son prédécesseur. James Bond est un con par rapport à vous. Nous allons ouvrir cinéma dans quelques jours, c'est ce que fait l'institution. Et Netanyahou d'ajouter, j'apprécie beaucoup notre ami les États-Unis qui est à nos côtés depuis de nombreuses années. Cela fait partie de notre niveau de sécurité nationale. Mais il peut y avoir une situation où notre objectif ultime, faire en sorte que les ayatollahs ne mettent pas fin à l'existence millénaire du peuple juif, nous obligera à prendre des décisions qualifiées de courageuses et indépendantes. Dans n'importe quelle situation, avec un accord ou sans accord, nous ferons tout pour empêcher l'Iran de s'armer d'armes nucléaires, car c'est notre existence. Ceci est votre première mission. Le responsable sortant de l'institution a salué son remplaçant lors de la cérémonie. La routine quotidienne du Mossad est la guerre secrète. Nous menons constamment d'innombrables opérations opérationnelles qui s'unissent en des mains puissantes. Ces opérations apportent des renseignements vitaux à l'État d'Israël, contrecarrent les armes non conventionnelles, contrecarrent le terrorisme et l'espionnage et innovent en matière de paix et de coopération. Action régionale, a déclaré Yossi Cohen. Quant au ministre de la Défense, Benny Gantz, il s'est également félicité de cette nomination. Bonne chance à Dedi, le prochain chef du Mossad, qui reprend l'une des meilleures organisations de renseignement au monde. C'est l'occasion de remercier Yossi Cohen, qui a construit de nouvelles capacités pour le Mossad et a mené des opérations audacieuses et très importantes. L'establishment de la défense continuera de travailler en étroite collaboration avec le Mossad et de l'aider dans toute tâche requise dans l'importante campagne de renforcement de la sécurité d'Israël. L'ombudsman a dû traiter la question pour la première fois à la fin de 2020, après que le Premier ministre ait annoncé son intention de nommer donc Barnea et après que le comité consultatif pour les nominations de haut niveau, dirigé par le juge à la retraite Eliezer Goldberg, ait approuvé la nomination demandée. Monsieur Barnea ne pouvait pas être nommé à titre permanent. Cette décision a été prise, entre autres, parce que le mandat du chef sortant de l'institution était d'environ 6 mois à compter de la date de la demande et plus de 2 mois après la date fixée pour l'élection. Peut-être n'avez-vous pas tout compris. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que Yossi Cohen était appelé le mannequin. Et devinez pourquoi. Bon, on va en France. En Ille-et-Vilaine, une journaliste est sur les traces d'un juif déporté en 1943 depuis le village de Bain de Bretagne. Elle estime qu'il était le seul jeune homme juif à vivre à Bain de Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Stéphanie Trouillard, c'est le nom de cette journaliste à France 24, est donc à la recherche de témoignages pour raconter l'histoire d'Abraham Zinkvogel, qui a vécu dans la commune et a été malheureusement déporté en 1943. C'est une histoire méconnue que Stéphanie Trouillard, journaliste à France 24 et spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, souhaite raconter. Elle est donc à la recherche de personnes qui auraient connu Abraham Zinkvogel, un jeune homme juif qui a vécu à Bain de Bretagne, en Ille-et-Vilaine, entre 1941 et 1943. Il était originaire de Pologne et a vécu avec ses parents à Paris auparavant. C'est ce qu'indique Stéphanie Trouillard, qui a déjà réussi à recueillir quelques infos. Abraham Zinkvogel a vécu à Bain de Bretagne de ses 21 à ses 23 ans. Il a travaillé chez Marcel Thomas, un tailleur rue du Pavé. Apparemment, il était le seul juif à vivre dans la commune à cette période, détaille la journaliste. Il a été arrêté en 1943 puis déporté à Auschwitz. On perd sa trace à ce moment-là. On sait qu'il est mort là-bas. Les parents du jeune homme, Racha et Shlama Zinkvogel, ont eux été arrêtés et déportés à l'été 1942 alors qu'ils vivaient encore à Paris. Si Stéphanie Trouillard se penche sur l'histoire d'Abraham Zinkvogel, c'est parce qu'elle a été contactée par un homme vivant en Israël. Sa mère a assisté à l'arrestation, explique-t-elle. J'ai régulièrement des gens qui me contactent pour ce genre de questions. Et en mai 2021, elle a publié un web documentaire intitulé « Le sourire d'Auschwitz » consacré à Lisette, une résistante bretonne. En tout cas, pour le moment, la journaliste a trouvé le numéro de téléphone de la fille du tailleur, mais n'a pas encore réussi à la contacter. Du côté de la municipalité, la mairie ne semblait pas être au courant de cette histoire. Je trouve que c'est important de rappeler que des gens avaient trouvé refuge en Bretagne, de dire comment cela s'est passé. Stéphanie Trouillard espère également trouver des photos d'Abraham Zinkvogel afin de mettre un visage sur un nom. Si vous avez des renseignements, vous pouvez contacter Stéphanie Trouillard à l'adresse mail suivante s.trouillard@gmail.com. Je répète, S comme Stéphanie, donc s.trouillard@gmail.com. Et je dois vous dire pour la petite histoire que j'ai moi-même envoyé un petit message à Stéphanie Trouillard pour lui dire que nous allons répercuter donc cette info dans cette émission Découverte à Radio Judaïca. Et elle m'a bien sûr tout de suite répondu.
Ewig bleibt wach in mein Sekorn. Wenn ich tracht von meiner Zeit, werd mir also bang und leid, oi, wie schnell bin ich schon alt geworden. Noch steht mir der Stiebel vor die Augen, wo ich bin geboren, aufgezogen. Meine Vögel seh ich dort, steht noch auf demselben Ort, wie auch allem ist das Alts verflogen. Der Knipp ist von ihrer Hand, ich dich feigale du schöne. Nach kusch ich dir reife becklich deine. Deine Augen voll mit Geil ringen in mein Herz herein. Hab gemeint, du wirst amor sein meine. In der Jorn, junge, scheine Blume, zurück zu mir wird ihr schon mehr nicht kommen. Jorn, alte, treue Ricke, kalte, meure, scheure Dicke, haben eier scheinen Platz vernommen. In der Jorn, hab ich ungewohnt. Getreue Mama, euch verleihen. Von der Stub, die Stock, ein Fleck, Feigele, ist euch weg. Oi, wie schnell bin ich schön alt geworden. Oi, wie schnell bin ich schön alt geworden.
C'était bien sûr Chava Halberstein. Direction la France. Alors question, pourquoi le maire de Nice, Christian Estrosi, a fait hisser le drapeau israélien sur sa mairie, appui inconditionnel d'Israël. Le maire explique qu'il pavoise son hôtel de ville d'un drapeau étranger dès qu'un acte de terrorisme est commis envers une grande démocratie. Il assume cette claire marque de soutien en faisant hisser le drapeau israélien sur sa mairie de Nice dans les Alpes-Maritimes. Monsieur Estrosi a une nouvelle fois démontré son appui inconditionnel à Israël, impliqué dans une escalade militaire face au Hamas. Face au terrorisme du Hamas, toutes nos pensées, notre soutien à Israël, a écrit le maire de la ville, photo à l'appui sur Twitter. Toutes nos pensées vont également aux Palestiniens qui ne sont que les otages d'un groupuscule terroriste, le Hamas, a-t-il ajouté. L'ancien ministre a justifié le mardi 18 mai cette prise de position auprès du journal Nice Matin en expliquant qu'il pavoie sa mairie d'un drapeau étranger dès qu'un acte de terrorisme est commis envers une grande démocratie. Le drapeau des États-Unis pour le 11 septembre, le drapeau de l'Arménie le 28 novembre dernier, le drapeau de la francophonie, de la Belgique, du Royaume-Uni, a-t-il énuméré. Rien à voir selon lui avec l'utilisation ostentatoire de drapeaux étrangers qu'il avait interdit par arrêté en 2014 dans certains quartiers de sa ville durant la Coupe du Monde de foot au nom de la tranquillité publique. Il avait à l'époque, je vous le rappelle, refusé de retirer cet arrêté, pourtant suspendu par la justice. Et en Autriche, la chancellerie fédérale et le ministère des Affaires étrangères ont également été pavoisés aux couleurs israéliennes en signe de solidarité. L'ancien ministre a vu l'ambassade d'Israël en France lui assurer en retour sa gratitude pour cette marque de solidarité exemplaire. Celle-ci lui a toutefois valu de nombreuses menaces de mort, à la suite desquelles il a engagé des procédures. Le conflit au Proche-Orient a fait son retour malheureusement dans le débat politique lorsque le gouvernement a demandé l'interdiction de la manifestation en soutien au peuple palestinien samedi dernier à Paris en raison de risques de troubles à l'ordre public. Dans la classe politique, cette décision avait été soutenue par la maire socialiste de Paris, Annie Hidalgo, mais dénoncée par la France insoumise comme, je cite, une provocation et une atteinte à la démocratie. Des milliers de personnes avaient toutefois bravé l'interdiction.
Oh, daheim bin ich jung geblieben. Es hat die Neut mich herausgetrieben. Wenn ich hab noch kein 13 Jahre gehabt. In der Fremd, weit von Mames Augen, hat in Schmutz mich die Gas der Zeugen, geworden ist von mir a Weileriat. Ich bin a Fremd, der fähigster Marwicher, a größer Künstler, harbet la
leicht und sicher. Das erste Mal, ich will's gedenken, wiesen teut. A rein in die Füße, verlackenen a Bräut. Oi, oi, ich war nicht auf Marken wie jene Prostejatten. Ich zipp nur bei karge, schmutzige Magnaten. Ich bin sich mich heie, wenn ich tapp als a Magnat. Ich bin na vereimu, gora voimeriat. In der Fremd, nicht gehad zum Leben, gebeten Bräut, an Ormer pflegt noch geben. Nur jene Leid, wo sennen Tomit satt, pflegen oft, treiben mich mit Zorn. Es wächst Aganev, es ist mir Kuhem geworden. Aganev bin ich nur a Weileriat. Ich bin a Vreimel, der fähigste Marwiche. A größer Künstler, harbet leicht und sicher. A jatta kleiner, a rein in Kutschement. A reusa massig, a seltener Talent. Oi, oi, ich war nicht auf Marken wie jene Prostejatten. Ich zipp nur bei karge, schmutzige Magnaten. Ich hab lieber Menschen, a milden, a naschbrat. Ich bin a Vreimel, Gora Voileriat. Scheu nicht lang wird das Spiel gedeuern. Krank von Klepp, Gicht von Fisse meuern. Nur ein Bakosch, ich wollt, als sei gewollt. Noch mein Teut in a Tag ertrieben. So läuft mein Matzewe stehen geschrieben. Mit euch jes Größe und von Gold. Da liegt der Vreimel, der fähigste Marwicher. A Mensch, a größer Gewein, wollt von ihm sicher. A Mensch, a feiner, mit Herz, mit a Gefühl. A Mensch, a reiner, wie Gott alleiner will. Oi, oi, wenn i berühm, wollt gewacht am Mammes Augen. Wenn's wollt die finstere Gas ihm nicht erzeugen. Wenn noch als Kind er a Taten wollt gehabt. Da liegt aber Himmel jener Weiler, ja. Mammes Augen, wenn's wollt die finstere Gas ihm nicht erzeugen. Wenn noch als Kind er a Taten wollt gehabt, da liegt aber einmal jener Weiler hat.
Alors, question sans témoin, comment transmettrons-nous la mémoire de la déportation? Les cérémonies commémoratives doivent évoluer et s'adapter à des publics nouveaux pour emporter leur adhésion. Ce 21 mai a marqué le 80e anniversaire de l'arrivée du premier convoi de déportés au camp de concentration de Nassweiler-Struthof dans le Bas-Rhin, le seul bâti sur le territoire français, alors en Alsace annexé. Aujourd'hui, seule une poignée des 52 000 déportés qui ont franchi les portes du camp ou celles de l'une de ses 50 annexes situées de part et d'autre du Rhin est encore en vie. Ils sont probablement encore moins nombreux à être toujours capables de témoigner de l'enfer qu'ils ont vécu dans les Vosges en France. Le témoignage oral et écrit de celles et ceux qui sont revenus des camps de la mort a permis de faire entrer la tragédie de la déportation dans les livres, les médias et les écoles et de rendre compte au plus grand nombre de cette invraisemblable réalité. De leur côté, les journées commémoratives, à l'instar de celle du dernier week-end d'avril, qui honore depuis 1954 les victimes et les héros de la déportation, ponctuent le calendrier de rendez-vous réguliers qui sont autant de piqûres de rappel face à un virus toujours bien présent et dont les variants, notamment antisémites et négationnistes, essaiment encore dans les couches interlobes de nos sociétés. Mais jour après jour, la voix des déportés s'éteint et les cérémonies n'attirent plus guère que les officiels, les associations et les familles de disparus. Face à l'inexorable disparition des premiers et au lent mais perceptible étiolement des seconds, comment réinventer dans les années à venir la transmission de la mémoire de la déportation et redonner, si ce n'est goût, tout au moins du souffle aux commémorations ? La transmission du souvenir dans la forme vivante et donc vibrante sera bientôt coupée, peut toutefois prendre d'autres contours, notamment par l'intermédiaire des vestiges de cette époque qui témoignent à leur façon de la période concentrationnaire, pour autant qu'ils aient été soigneusement et scrupuleusement conservés ou restaurés. La confrontation du visiteur avec ses reliques de l'histoire et l'émotion qu'elle est susceptible de provoquer en lui peuvent pallier, en partie en tout cas, le lien qui sera malheureusement rompu à terme avec les témoins directs de cette page sombre de l'histoire. Elles le font d'ailleurs déjà sur l'ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof. D'importants travaux ont ainsi permis de restaurer le bloc cellulaire et le bloc crématoire, aujourd'hui les miradors et le bâtiment abritant la chambre à gaz, sans atteindre la nature même de ce que ces lieux ont été, ni maquiller l'horreur qu'ils ont représentée. À l'heure du tout écran, de la réalité augmentée, des visites virtuelles ou à 360 degrés, des visioconférences, des webinaires et autres réseaux sociaux, les lieux de mémoire doivent également être en mesure d'accompagner le public sur tous ces outils numériques, même si les formes traditionnelles d'information et de sensibilisation conservent évidemment toujours leur intérêt, comme les expos, conférences ou autres livrets pédagogiques. Les deux approches ne s'affrontent pas, mais se complètent dans une même unité directionnelle, vectrice d'une mémoire commune dans sa pluralité. Quant aux cérémonies commémoratives, elles doivent certainement évoluer au niveau de leur format et s'adapter à des publics nouveaux pour emporter leur adhésion. Plus courtes et plus dynamiques, peut-être même moins pompeuses, elles doivent renouer avec la jeunesse à partir d'une représentation qui ne soit pas contrainte ni même acceptée, mais bel et bien voulue. Il est dès lors nécessaire d'effectuer un long travail en amont de ces rendez-vous pour permettre à ces citoyens en devenir de s'approprier non seulement le sujet, mais aussi ses problématiques et les enjeux mémoriels qui lui sont intimement liés. Alors, sous l'égide du mémorial de la Shoah, l'opération des ambassadeurs de la mémoire, qui permet justement à des collégiens et à des lycéens de s'imprégner de ces questions sur le temps long, au travers d'une année scolaire ponctuée de recherches historiques, de visites sur le site et de travaux collectifs, s'inscrit parfaitement dans cette ligne. Enfin, sachez que le travail de mémoire, qui ne pourra donc bientôt plus être assuré par les derniers survivants de l'enfer des camps, devra ainsi trouver son ou ses chemins parmi les différentes voies qui s'offrent à lui entre l'absolue nécessité de la conservation idoine des vestiges concentrationnaires, la diversité des supports sur lesquels il peut s'appuyer et le lien, cette fois humain et essentiel, avec une nouvelle génération avertie et impliquée, prête à assurer cette transmission et à assumer cette transition. Alors, autre chose, rappelez-vous, c'était le 25 mai 1991, l'opération Salomon, la seconde alia des Juifs d'Éthiopie, appelée les Falachas ou encore Beta Israël. Le rapatriement de ces Juifs en Israël se déroula en plusieurs temps, rythmé par les évolutions de la situation économico-politique éthiopienne de l'époque. Alors, l'opération Salomon a commencé le 24 mai 1991 et a permis l'évacuation de 14 400 Juifs éthiopiens en Israël en l'espace de 36 heures. Il s'agit de la seconde vague d'aliyah des Juifs depuis l'Éthiopie. La première aliyah des Juifs d'Éthiopie remonte à 1984. C'est lors de l'opération Moïse que 8000 Juifs éthiopiens purent se rendre en Israël, parmi lesquels 1500 étaient des enfants et des adolescents orphelins. L'opération avait été tenue secrète du fait de l'interdiction de sortie d'Éthiopie. Depuis la création de relations diplomatiques entre Israël et l'Éthiopie en 1989, beaucoup de Juifs éthiopiens eurent vent d'une nouvelle possibilité d'aliyah. Certains d'entre eux avaient déjà de la famille en Israël. Ils se pressèrent donc aux portes de l'ambassade d'Israël et demandèrent à entrer en Israël. Quand commencèrent les émeutes contre le gouvernement en place en Éthiopie et que les opposants au régime se rapprochèrent d'Addis Abeba, la capitale, les Juifs craignirent que l'on s'attaque à eux et que leur projet d'immigration soit empêchés. Alors, face au danger qui menaçait les Juifs d'Éthiopie, une opération de sauvetage fut organisée. Merci à Georges et à Lynn Guttelmann. Contrairement à l'opération Moïse, où il s'agissait de transferts clandestins dans le but de sauver les Juifs éthiopiens de la guerre et de la famine, l'opération Moïse s'est faite en toute légalité et une très importante somme d'argent fut engagée dans cette opération. Alors, comment s'est déroulée l'opération Salomon? En 1991, suite à un changement de pouvoir, le nouveau gouvernement éthiopien accorde en échange de 40 millions de dollars, tout de même, le droit aux Juifs d'Éthiopie de partir. Israël organise alors la fameuse opération Salomon et grâce à un pont aérien ininterrompu de 48 heures, achemine 14 400 personnes vers Israël. Dans un laps de temps d'environ 36 heures seulement, 35 avions de la compagnie israélienne El Al et des avions de transport militaire firent 41 allers-retours et transportèrent 14 400 juifs d'Éthiopie vers Israël. Le dernier avion El Al partit le samedi 25 mai. Et à leur arrivée, certains juifs éthiopiens retrouvèrent leur famille après une séparation de plusieurs années, car arrivés quelques années plus tôt lors de l'opération Moïse cette fois. Cette seconde opération reçut le nom de Salomon, en souvenir du roi Salomon bien sûr, qui avait pris pour épouse la reine de Saba, rien de la reine d'Éthiopie. Au total, dans le cadre des deux opérations de sauvetage des Juifs d'Éthiopie, plus de 35 000 Juifs arrivèrent en Israël.
Baruch Ata Adonai,
Baruch Ata Adonai,
Baruch Abba Yerushalayim,
Baruch
Ata Adonai,
Baruch Ata Adonai,
Baruch Abba Yerushalayim. Shalom, Salam Aleikum. You can see Christian, Jews and Muslims living together and praying, Amen. Let's give thanks and praises. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime.
la yakirati Israël la yakirati ani oevota Israël la yakirati Israël a yakirati Israël a yakirati
C'était bien sûr Alpha Blondie avec Jérusalem. Alors pour l'anecdote, l'info qu'il ne fallait surtout pas manquer, c'est bien sûr la journée mondiale du houmous. De toutes les journées internationales ou mondiales, celle-ci est probablement la plus importante. Quoi, vous ne le saviez pas ? Le 13 mai, c'était la journée mondiale du houmous. Et j'en profite pour vous donner quelques infos intéressantes à ce sujet. Les éléments nutritifs du houmous pourraient être vraiment bons pour votre poids. Une nutritionniste a déclaré au magazine Fitness que les protéines présentes dans le houmous pourraient aider à lutter contre les fringales et à équilibrer les niveaux de sucre dans le sang. Cela pourrait aider à lutter contre le grignotage excessif et cette dernière parle également de la grande teneur en fer du houmous qui vous redonnera de l'énergie, ce qui pourrait vous rendre plus motivé pour aller à la salle de sport. Sachez également que les pois chiches amenuisent le risque d'avoir un cancer. Mais oui, les aliments contenant de l'acide folique peuvent en effet réduire le risque de cancer colorectal. De plus, les chercheurs pensent que des fibres alimentaires favorisent la croissance des bonnes bactéries dans le côlon, ce qui protège également du cancer. Le houmous éviterait les accidents vasculaires et maladies cardiaques. Selon une étude dans The New England Journal of Medicine, environ 30% des crises cardiaques, accidents vasculaires cérébraux et décès liés à des maladies cardiaques peuvent être évités chez les personnes qui adoptent le régime à la méditerranéenne. Et bonne nouvelle, le houmous est l'aliment principal de ce régime alimentaire 100% méditerranéen. Bon. Soyons honnêtes, ce sont surtout des arguments chocs pour vous faire consommer du houmous. Mais quel mal y a-t-il à ça ? J'ai aussi une petite liste des bonnes raisons d'en manger. Il s'étale très facilement sur une bonne baguette, sur une tartine, sur un sandwich. Il est convivial d'en manger et au cours d'un pique-nique, à prévoir au mois de juin en respectant les gestes barrières avec des tomates cerises. Et bien sûr, il nous rappelle nos dernières vacances en Israël. Il est tout simplement délicieux. Alors, comme on dit là-bas, bete avon et bon appétit.
Ich lehre Otah, Allah.
Et c'est en compagnie de Giora Feinman, de sa clarinette et de Bublitschki que se termine cette émission découverte. Alors je vous baladerai la semaine prochaine à Tel Aviv et je vous parlerai de la recrudescence de l'antisémitisme en Allemagne. Ce sera toujours malheureusement d'actualité la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que cette émission vous aura intéressé. Quant à moi, j'ai bien l'intention de vous retrouver la semaine prochaine, vendredi prochain, même heure, même chaîne. En ce qui concerne la suite du programme sur les ondes de Radio Judaïka, vous retrouverez les infos en direct de Tel Aviv et de Jérusalem dans quelques instants. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée le dimanche de 17 à 18 heures. Et bien sûr, je vous souhaite Shabbat Shalom et Hagit Shabbos.
Découverte, découverte. Aviva Belef en votre compagnie. Avec rien que de bonnes nouvelles en provenant d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités.
90.2 FM.
חלק מהזמן היו בי חששות על מה שרציתי להגיד ולא אמרתי אולי כבר לא אמר בחלון קטן מולי בועה בפנסי החור איך ביום הם בודדים ואיך בלילה הם שווים לחיות ולפעמים זה גם קורה לי בלילות לחשוב על כל מה שרציתי להיות ולפעמים זה מין חיוך כזה מוכר שעוזר לי להשלים עם שנגמר לפעמים כשסתם צופה על הבנות כל כך קשה לי להחזיק את הדמעות כל אלה בגווני סגול ירוק מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק הוא כבר לא רחוק לשמוח להרפות מכל מה שכבר לא בחלון קטן מולי בועה בעיר הישנה שהאחר